toi, mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'Emploi. Mode d'Emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, c'est l'équipe historique, donc avec Ludo, Christophe, Thierry, Gilles à micro.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous et à toutes.
Et ce soir, nous parlerons principalement de Virgin Megastore qui, comme vous le savez bien, a de grosses difficultés. Pour en parler avec nous ce soir, j'ai invité deux personnes, Laurent Piollet, donc qui est expert auprès du CE pour une expertise donc comptable, et monsieur Sylvain Alias qui est représentant Sud Virginie.
Bonsoir.
Bonsoir à vous deux, merci en tout cas d'accepter Bonsoir. Cette invitation. Voilà. On va commencer cette émission donc sur Megastore, Virgin Megastore, qui apparemment en ce temps-ci donc dépose bilan, enfin même dépose bilan. On aimerait commencer par ramener un petit peu à l'historique, c'est-à-dire comment a commencé Virgin. C'était un éditeur de musique au départ. Comment ça a évolué par la suite, Sylvain peut-être.
Moi je suis salarié de l'entreprise depuis 2005, mais bon, je connais néanmoins un peu, je peux parler un peu de l'historique. Donc Virgin ouvre en France en tout cas, le magasin en 1988 et des Champs-Élysées, puis après se développe en province, en 91 ouvre le Virgin de Marseille, puis après ouvriront Toulouse, des magasins comme Toulouse et d'autres. À Montpellier aussi, et ensuite, tout au cours des années 90, donc les magasins se développeront en France, et à partir de 2001, Charles Branson, donc propriétaire des magasins, que ce soit en France et également au Royaume-Uni et autres, vend les magasins français au groupe Lagardère.
D'accord. Et par la suite, alors, parce que oui.
Et ensuite, ça se passe en 2001 et fin 2007, début 2008, hein, janvier 2008. Lagardère vend ensuite les magasins à la société financière Butler Capital Partners.
Alors quand ces deux ventes se sont faites, donc consécutivement évidemment, est-ce qu'il y a eu des pertes est-ce qu'il y a eu des licenciements, des charrettes au moment de la vente de ces magasins dans les deux périodes en question, 81-88
De 88 jusqu'à 2001, on peut dire qu'il y a eu une phase de développement. Et ce que je sais, c'est qu'à partir de 2003-2004, il y a plutôt eu une phase de repli qui a été due déjà un peu. À partir de 2004-2005, donc le marché du disque commençait à se porter pas très bien et on était en pleine mutation. J'ai pour mémoire, quand je suis rentré dans l'entreprise en 2005, que déjà certains magasins déjà en région parisienne avaient fermé. Ça avait commencé par les magasins de banlieue nord, comme Rosny-sous-Bois et Gare au Nord et d'autres. Ensuite, Saint-Denis fermera. Et puis, il y aura également un magasin de province, celui de Nantes, en 2005-2006, qui également fermera. Voilà. Ça avait commencé comme ça, donc on savait déjà que l'entreprise commençait à avoir des difficultés. C'était dû surtout à l'époque aux mutations du marché du disque. Et ensuite, au final, Lagardère, donc, néanmoins, fera le constat que, bon, il a acheté... d'ailleurs, je me souviens, c'est cette phrase qu'il avait lancée lors d'un comité central d'entreprise, je crois, du groupe Lagardère, et qui avait dit, bon, à propos de Virgin, en 2001, j'ai racheté un disquaire qui était leader, et en 2006-2007 qu'il avait dit ça. Et là, en 2006, je me retrouve avec un gros libraire. Donc ça m'intéresse moins, et je vous cache pas que Virgin, je souhaite le céder, voilà.
Alors, juste une question, parce que là, Virgin, c'est, au départ, c'était uniquement les disques, hein, la musique, au départ, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, oui.
Et ça s'est diversifié dans la marchandisation de la culture avec, effectivement, les DVD, enfin, tout ce qui est caméra, etc. Enfin, DVD, le livre, et également tout ce qui touche un peu l'informatique.
Oui, c'est-à-dire qu'en France, quand le Megastore s'est ouvert aux Champs-Élysées, effectivement, au départ, c'était donc un temple de la musique. Hein. C'était un des plus grands magasins de musique d'Europe, où on trouvait enfin des milliers de références. Et également, bon, étaient venus ensuite, par la suite, les livres, où, bon, j'ai le souvenir d'une publicité de Virgin à l'époque, au début des années 90, qui était « Nous ne ferons jamais, il n'y aura jamais assez de place pour le livre », voilà. D'accord. Ça avait été à l'époque, voilà, les campagnes choc de Virgin dans les années 90. Mais c'est vrai qu'après, bon, ils ont après effectivement la Fnac, lui, le concurrent direct, si on peut parler comme ça, effectivement, était lui en même temps un commerçant de produits techniques aussi, même au départ. Mais Virgin était surtout axé sur accès au contenu, enfin vendeur de contenu culturel, ce qu'on appelle, voilà, la musique, la vidéo à l'époque, du livre, voilà. Et question produits techniques, non, c'était pas du tout son marché. Lui, c'était vraiment avoir des vendeurs spécialistes, surtout dans le domaine de la musique, qui puissent renseigner les gens et avoir des choses pointues également. Bon, c'était là où effectivement au Megastore, le public allait chercher tout ce qui était import britannique, américain, japonais, avec un rayon de jazz très pointu. Voilà, c'était vraiment là où était le cœur de la musique, vraiment. Voilà, c'était ça, en fait, l'image de Virgin.
Alors, aujourd'hui, il y a combien de magasins encore en France? Il y a 25 magasins, c'est ça, ou 26?
26, oui, actuellement.
Pour 1200 salariés, c'est ça, hein?
C'est ça, oui.
D'accord. Tu as une question à poser, Christophe?
Oui, par rapport à la stratégie de Virgin au départ, qui est un disquaire avec des domaines pointus dans les thématiques musicales, il était évident qu'allait apparaître la problématique de la concurrence de la Fnac. Donc moi, je voudrais savoir, est-ce que dans les années 90, l'objectif numéro un, parce que c'est l'impression que ça donne en arrière-fond, c'était de concurrencer en termes de produits culturels et de contenus culturels la Fnac?
Pas tout à fait, peut-être. Peut-être pas tout à fait, parce que quand Virgin apparaît à Paris, hein, le Megastore, c'est vraiment nouveau, sur les Champs-Élysées, c'est je fais un temple de la musique, dans lequel il y a dès le départ une librairie aussi, hein, et même une grosse librairie. Bref, je fais un temple des produits culturels, mais c'est rock'n'roll, ça vient de Londres, c'est jeune, ça n'a pas tout à fait les mêmes codes que d'habitude, hein, dans les produits culturels. Donc c'est ouvert à tout le monde. Et c'est vrai qu'on voit un peu tous les publics qui se mélangent, hein, dans ce magasin. À la fois les cadres qui bossent dans le quartier des Champs-Élysées, les jeunes, les passionnés de tel genre. Et Sylvain l'a dit, il y a une très forte compétence des vendeurs. On prend les meilleurs pour faire les meilleurs rayons de disques, capables d'importer tout et n'importe quoi. Bref, c'est très bon. Et la Fnac n'était déjà plus tout à fait sur cette stratégie-là. La Fnac, à l'époque, elle est en pleine croissance, avec un bon savoir-faire familial bien rodé, et puis son objectif, c'est de conquérir l'Europe, voire le monde, hein, même si elle continue à ouvrir des magasins en France. Alors, ces deux enseignes qui avaient chacune bien leur identité, qui bien sûr étaient concurrentes, hein, ça c'est, il faut pas se leurrer, mais la Fnac avait aussi tout un domaine de produits techniques que ne faisait pas du tout Virgin, hein. Virgin ne faisait pas de hi-fi, pas d'informatique, et donc ça allait bien, et tout ce monde-là était quand même porté par une période qui était très euphorique, hein. Années 80-2001, l'énorme explosion du disque CD, l'énorme marché de renouvellement de tous les vinyles. Et on pensait que ça allait durer, que ça allait durer comme ça, jusqu'au moment où ce marché, ben, il se met à changer, et puis à changer à toute vitesse, hein. Vraiment, le tournant des années 2000, personne ne voyait trop ce qu'allait donner le numérique. on commençait à parler des échanges de fichiers, du piratage, puis ça allait à une vitesse redoutable, quoi.
Alors moi j'aimerais, merci Laurent, mais j'aimerais quand même revenir un petit peu sur la formation que tu parlais tout à l'heure des salariés, la formation des salariés. Est-ce que on sait souvent que dans ce genre de magasin, on peut avoir des intérimaires, des gens qui viennent pour des CDD très très courts, genre une 3 semaines, 3 mois, enfin bon, je ne sais pas trop. Est-ce que c'était vraiment des gens très 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 bien formés et qui étaient éventuellement formés par la boîte même ou et qui étaient bien payés comment? Alors, comment se situe la situation?
Oui, il faut se dire dès le départ, donc la Virgin, effectivement, les salariés étaient des gens très très pointus dans leur domaine, des véritables passionnés, mais effectivement, et c'est là où c'est vrai, où dès le départ le bât blesse, c'est qu'effectivement les salaires étaient néanmoins très bas par rapport même si on compare, mettons même dès le départ les années 90, les salaires et les conventions internes de Virgin par rapport, mettons, aux salariés de la FNAC, là-dessus, il est clair que les salariés de Virgin étaient moins bien payés que ceux de la FNAC. Ah, pourtant, c'était des vendeurs spécialisés dans leur domaine, voilà, qui vraiment connaissaient tout sur le bout des doigts, mais effectivement, c'était des spécialistes, mais payés pas cher, effectivement.
C'est-à-dire, c'était le SMIC?
Oui, le SMIC. Oui, c'est ça. Le Virgin a toujours fonctionné selon le SMIC. Voilà, bon, des salaires bas, et c'est vrai, bon, déjà à l'époque, hein, il faut se remettre à l'époque, nous sommes dans les années 81, on peut pas dire que ce soit non plus au niveau voilà du salariat une euphorie complète avec voilà et très vite d'ailleurs va apparaître aussi une tendance qu'on peut voir un peu partout aussi dans Paris surtout c'est que dès les années 90 voilà les Champs-Élysées avec les magasins qui ouvrent du dimanche au dimanche de 10h à minuit chaque jour.
Il ne faut pas oublier ça, c'est que ce qui a été un combat emblématique, hein, c'est syndicat contre Virgin Champs-Élysées sur la question de l'ouverture du dimanche. Ça a été la première bagarre de chiens. Depuis, malheureusement, on a reculé. Ça n'empêche pas qu'il y ait quelques succès par-ci par-là, mais ça a été la première bagarre de chiens sur ce sujet.
Très bien. Oui. Bah, donc ils travaillent le dimanche, si j'ai bien compris.
Ah oui. Bah, voilà, c'est ça. Champs-Élysées.
Vous avez perdu la bagarre, quoi.
C'est zone touristique, ça, ouverture le dimanche.
D'accord. Et tous les magasins ouvrent le dimanche.
Sur les Champs-Élysées, oui.
Sur les Champs-Élysées.
Oui. Et ça, on peut le dire grâce aux Virgin des Champs-Élysées, en fait.
D'accord.
Qui a réussi, effectivement, en faisant le forcing, à faire que toute l'avenue, au final, parce qu'il suffit que. C'est simple à expliquer, hein. Dès qu'on donne l'autorisation à un, tous les autres volent aussi et c'est bon. Et après, voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, tous les magasins sont ouverts 7 jours sur 7 et de 10h à minuit sur les Champs, à part quelques-uns qui ferment. Mais sinon, oui, le Monoprix, les boutiques de vêtements, le H&M et autres. Voilà.
On va écouter peut-être une petite chanson avant de reprendre la parole. Merci beaucoup.
Sur les ruines d'un mur d'il y a 50 ans, j'entendis un murmure fusillé.
Et oui, vous venez d'entendre le grandiose, grandissime Marc Augeret, bien sûr, chanteur militant s'il en est. Voilà, superlatif.
C'est bien, Marc Augeret.
Ah oui, c'est génial, superlatif de circonstances, on va dire. Donc, vous êtes bien sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs précaires. Et ce soir, nous parlons de Virgin Megastore qui dépose le bilan, qui a déposé le bilan d'ailleurs. Donc, c'est 1200 salariés peut-être dans la rue, au chômage. Hein, voilà.
On va peut-être juste apporter une précision pour tous ceux qui nous écoutent. Déposer le bilan, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de magasins qui sont fermés. Hein, le meilleur service à rendre aux salariés de Virgin, c'est d'aller dans les magasins parce qu'ils sont toujours ouverts. Il y a toujours des listes, il y a toujours des livres, il y a toujours plein de choses.
Voilà, comme ça, ça empêchera éventuellement une fermeture ultérieure. Voilà, merci beaucoup, Laurent. Donc, on va reprendre cette émission donc sur Megastore et on va parler maintenant un peu de l'actualité parce que nous avons pu constater que vous étiez en grève. Voilà, donc... Cette grève, c'était évidemment pour marquer le coup, pour montrer qu'effectivement au patronat, que vous n'avez pas envie du tout de vous retrouver au chômage, ça va de soi, mais pourquoi cette grève en fait ?
Alors ça a été surtout en fait des journées d'action, hein. Nous on n'est pas en grève reconductible comme mettons à PSA ou depuis le mois de février, le 12 février je crois, ils sont en grève reconductible. Nous ça a été des journées d'action qui ont commencé fin décembre, parce qu'il y a eu donc déjà la direction a mis sur la sellette le magasin des Champs-Élysées. Donc au départ, il y a eu surtout des actions, une action donc fin décembre concentrée sur les Champs-Élysées, et très vite arrivé janvier, donc est arrivé donc la fameuse séance de la fameuse réunion du CE où donc à l'ordre du jour était effectivement le projet de cessation de paiement, de mise en cessation de paiement de l'entreprise. Et là, effectivement, c'est là où les magasins, déjà, ça a commencé au niveau de la région parisienne et un peu en province, où, donc, on peut dire, c'était le 19 janvier, si je ne me trompe pas. Donc, les magasins de région parisienne se sont retrouvés aux Champs-Élysées. Et le 29 janvier a été donc organisé un mouvement national, cette fois-ci, où on était quasiment près de 800, avec une jonction à 13h avec les Fralib, les PSA, les candidats, sur les Champs-Élysées avec prise de parole et également des politiques qui étaient présents. Et ensuite, les 700-800 salariés de Virgin présents se sont tous rendus sous les fenêtres de l'actionnaire Butler Capital Partners pour demander leurs droits et dire non à la fermeture, voilà.
Alors, Laurent, toi, tu travailles dans un cabinet d'experts comptables, c'est ça, d'expertise comptable ?
Oui, un cabinet qui ne travaille que pour les comités d'entreprise, hein, c'est sa vocation.
Voilà. Et c'est une SCOP, tu m'as dit, hors micro.
C'est une coopérative, oui, c'est un cabinet qui appartient tout à fait à ses salariés, qui est autogéré depuis 40 ans. Il est né avec le mouvement de l'IP et il existe toujours.
D'accord. Et donc c'est le CE de Virgin qui t'a demandé d'intervenir sur ça, ou si tu faisais déjà avant des...
Alors nous suivions et nous travaillions avec le CE de Virgin depuis 10 ans, hein, c'est-à-dire qu'ils nous ont reconduits, comme le Code du travail leur en donne la possibilité, reconduit notre mission chaque année, qui consiste à expliquer la situation, remettre un rapport au CE, le commenter et bien sûr travailler avec lui. Et pour ça, on a quelque chose qu'il faut absolument préserver, et notamment préserver contre un très mauvais accord, dit accord interprofessionnel, là, qui est en discussion en ce moment. On a un droit d'accès total aux documents de l'entreprise. Le même droit d'accès que les commissaires aux comptes de la direction de l'entreprise. Donc ça, c'est précieux. Malgré tout... ce qu'on a vu au fil du temps, depuis l'époque Hachette, c'est quand même une entreprise qui pataugeait un petit peu dans ses difficultés sans arriver à trouver une voie de sortie, tout du moins une stratégie qui allait bien. Et au moment où le fonds Butler a racheté Virgin, il y a eu une opération qui était... le désengagement partiel d'Hachette, hein, qui reste aujourd'hui encore actionnaire à 20%, et une opération qu'on jugeait dangereuse, qui était de dire, dans la corbeille, quand on achète, il y a Virgin, déjà un peu avec ses difficultés, et puis il y a une merveilleuse entreprise qui marche très bien, qui s'appelle le Furet du Nord, celle-là, on va la vendre, tout de suite, pour se rembourser en partie de notre acquisition. Imaginez aujourd'hui que nous soyons dans une situation où on a Virgin qui va pas bien du tout, mais toujours le Furet du Nord qui lui va très bien. Ça serait pas tout à fait la même chose. Et ironie du sort, on sait très bien que le Furet du Nord se pose des questions pour racheter un certain nombre de magasins de Virgin.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être un peu plus les difficultés économiques déjà sous la période de Lagardère, et puis comment le fonds Butler finalement
récupère les amis ? Oui, il y a un cumul de choses. Bon, indéniablement, le marché du disque s'est effondré. Personne n'imaginait que ça tomberait aussi bas. On disait tous, ça a un plancher. Je me souviens des discussions de CE, où était le plancher? Non, on faisait moins 17 et on constatait du moins 17 par an. moins 17%.
Ça, c'était principalement le fait d'Internet, de la concurrence d'Internet.
Dans un premier temps, beaucoup le piratage. Et puis après, l'apparition d'une vraie offre payante en ligne, très efficace. Et on voit bien aujourd'hui que de plus en plus, la tendance va vers de la dématérialisation. Ça ne veut pas dire que le disque est complètement mort, mais ça veut dire que le disque devient plutôt, comme on dit, un marché de niche plutôt qu'un marché de masse. Hein. Voilà, c'est un peu les différences. Et ça, les marchés de niche, pour les commerçants, c'est pas facile. C'est pas tout à fait les mêmes structures d'entreprise. Et puis, il faut être très réactif, très malin pour savoir utiliser ça. Là-dessus, d'ailleurs, c'est une des critiques que nous émettions et qu'on continue d'émettre, c'est que peut-être que Virgin ne s'est pas suffisamment battu pour garder des niches, hein, pour dire on va continuer sur quelques magasins à être très bon dans tel domaine pour résister au déclin. Non, il y a eu plutôt de l'accompagnement. Bon, bah, le disque baissait, alors on réduisait le rayon, puis comme on réduisait le rayon, ça marchait moins bien, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Donc ça, première difficulté vraiment structurelle, elle n'épargne personne, ça a été la même chose pour le jeu vidéo, qui aujourd'hui, en vente matérielle, n'existe quasiment plus, ce n'est que du jeu en ligne. Et c'est mis aussi la vidéo. Et vous savez que presque tout le monde maintenant a des box chez soi, qui a de la vidéo à la demande. Vous savez que la plupart des loueurs de cassettes et de DVD ont fermé. Et que donc, c'est une évolution de marché. Bon. Quand un marché comme ça baisse, bah, le travail d'une direction d'entreprise, c'est de définir une stratégie pour s'en sortir, c'est-à-dire aller faire autre chose, vendre autre chose. La réponse principale de la direction de Virgin, ça a été « on va vendre plus de livres ». Bon, oui, ça a marché pendant un moment. Ça ne réglait pas totalement le problème. Il aurait fallu aller plus vite et plus loin. Bon, c'est un peu facile à dire autour de la table, là, mais en tous les cas, il n'y a pas eu suffisamment d'anticipation de ça. L'autre aspect, juste pour terminer, l'autre aspect, c'est que Lagardère achète, comme vous le savez, est un groupe extrêmement puissant avec des moyens considérables, qu'il n'a pas su quoi faire de cette entreprise et qu'il n'y a pas mis l'énergie et l'argent nécessaires, et que derrière est arrivé Butler Capital, qui est, de notre point de vue, un fonds qui était un petit peu limite en taille par rapport à ce qu'il aurait fallu remettre dans cette entreprise pour qu'elle reparte. Et de fait, ils n'ont pas remis tant que ça. En partie, il y a eu des choses faites par du financement sur l'entreprise, en vendant de l'interne, hein, mais en réinjection d'argent, non. Et ça, c'est quand même quelque chose, un jour, sur lequel il faudra qu'on se penche, qu'on ait des revendications là-dessus à portée très claire. Limiter la possibilité à des fonds trop petits qui veulent faire une belle opération de s'intéresser à des entreprises trop grosses pour elles.
Oui, alors, le fonds d'investissement Butler, c'est plutôt un fonds qui, effectivement, comme vous l'avez dit, est de petite taille, mais qui, donc, si j'ai bien compris, restructure les entreprises qu'il aborde, ou, enfin, en espérant, disons, augmenter son chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il s'est intéressé au magasin Virgin Megastore, et quelle était sa stratégie quand il a repris le...
Ben on se le demande, il faudrait leur demander à eux-mêmes, enfin on leur a demandé, hein, bien sûr, et ils nous ont dit on pensait pas que le marché allait bouger tant. Bon, leur métier, c'est de prendre des entreprises, soit en situation de difficulté, soit des entreprises qu'ils estiment avoir du potentiel, les gérer et les faire grandir pendant un certain temps, et les revendre. C'est des gens qui ne restent pas éternellement. C'est pas... Butler Capital n'est pas le plus rapide des fonds. Hein. Il y en a pour qui c'est des périodes très délimitées. Eux, ils sont plus souples là-dessus. Là, en fait, que sont-ils allés faire là? Ont-ils bien mesuré ce qui allait se produire et l'état déjà de l'entreprise qui avait besoin de beaucoup d'injections d'argent? Bon. Leur métier, c'est de revendre plus cher qu'ils l'ont acheté. Là, faut bien reconnaître que ils laissent leur chemise. Bon, il restera peut-être les bretelles ou autre chose, mais enfin, ils laissent leur chemise. On va pas nier le fait qu'ils ont perdu de l'argent. Hein. C'est pas une bonne opération, mais en même temps, pour ces fonds, il faut regarder en moyenne. J'ai très bien revendu celle-ci, j'ai perdu sur celle-là, et c'est la moyenne. À part ça, Butler est un fonds, ce sont des personnes qui confient de l'argent à Butler, qui gèrent leurs intérêts, qui investissent ailleurs. Il n'y a aucune visibilité réellement sur la dimension, les comptes et les résultats de Butler, puisqu'il ne rend pas de compte comme une entreprise cotée en bourse, par exemple.
Thierry ?
Oui. Alors, est-ce que c'est pas venu aussi que certaines grandes structures ont racheté les... ont investi dans des nouveaux artistes qui se vendaient bien et que Virgin est arrivé que derrière eux, un peu à la traîne ?
Je sais pas, parce que très vite, quand même, Virgin Disc et Virgin Store se sont séparés très rapidement. Hein. Ça aussi, il faut bien en avoir conscience. Le flamboyant Richard Branson, son métier, c'est de mettre sur orbite, puisque maintenant, il veut même mettre sur orbite des personnes, donc, mais aussi des entreprises. C'est son seul métier. Il lance... Et après, il s'en va. Bon, aujourd'hui, il lance plus grand-chose, d'ailleurs. Hein. Mais il a fait sa réputation là-dessus. Je suis charismatique, je vous mets sur orbite, et après, je m'en vais. Il est parti au meilleur moment. Puis derrière, il a fallu assurer. Hein. Et d'ailleurs, si vous regardez sur les activités de Richard Branson pour nuancer un peu le mythe... Il a sans doute rendu service à l'Angleterre, il a d'ailleurs été anobli pour ça, mais combien y a-t-il d'affaires Virgin lancées par Richard Branson qui ont survécu ? Ben, il y a quand même une très très grosse déperdition.
Christophe ?
Oui, moi j'avais une question à vous poser. D'abord, je pense que le président de Colony Capital avait l'idée de faire une opération financière en récupérant les Furies du Nord, hein, parce que c'était une entreprise qui gagnait de l'argent.
Juste pour Butler. Hein.
Pour Butler.
Colony,
hein.
Ils sont dans voilà. D'autres coups, voilà. Mais donc, c'est pas
Butler
eux.
Butler Capital, ouais, voilà. Ouais. C'était, excusez-moi, c'était ouais. Pour... pour eux, une opération financière, c'était leur stratégie à eux. Et un de leurs contre-arguments par rapport aux salariés de Virgin, c'est de dire, oui, mais Virgin a voulu faire comme la FNAC, ils se sont installés dans les centres des grandes villes régionales et les axes forts de flux de population et touristiques de la capitale, en payant des loyers trop élevés, ce qui les a complètement plombés au niveau de leur compte. Alors, par rapport à ça, parce que c'est un argument qu'on a énormément entendu dans le discours médiatique, je voudrais que vous me donniez, en tant que personne qui analyse les comptes, la ouais. Situation financière, votre point de vue.
Eh bien, c'est un sujet où, effectivement, il y a eu de nombreuses discussions en CE avec la présidente actuelle de Virgin, qui a immédiatement pour elle diagnostiqué le problème majeur, qui était un niveau de loyer trop élevé. Alors, je voudrais quand même rappeler pour n'importe qui ayant fait des études jusqu'au CM2 qu'un ratio, il y a un chiffre au-dessus et un chiffre en dessous. Hein? Donc il y a d'un côté le chiffre d'affaires au-dessus et en dessous il y a le prix du loyer. Donc vous voyez tout de suite où je veux en venir, on peut jouer sur deux paramètres. C'est très bien de dire il y a des problèmes de loyer, dans certains cas c'est vrai. Mais nous, on renvoie le problème sur le chiffre du dessus. Débrouillez-vous pour faire du chiffre, pour mettre du chiffre au-dessus. C'est votre métier. Alors, les salariés de Virgin, ils sont pas prêts à vendre de la lessive ou que sais-je pour faire du chiffre, mais ils ont quand même une demande qui est de dire, c'est à vous de définir la stratégie. Vous avez des magasins, ils sont là. Mettez ce qui dégage suffisamment de marge dans notre domaine d'activité pour que ça puisse tenir. Et là, là, il n'y a pas grand-chose qui a été tenté, hein, quand même.
Et alors, qu'est-ce qui pourrait dégager de la marge, justement ?
Alors, qu'est-ce qui pourrait dégager de la marge ? Bon, il faut revenir. Encore une fois, on n'a pas la recette, hein, parce que faut être toujours un petit peu modeste et pas trop donneur de leçons. Mais réfléchissons, qu'est-ce qui pourrait aider à dégager du chiffre ? Il faut sans doute pour ça revenir à l'image originelle de Virgin. Réfléchir à d'où l'on vient, quelle est son identité. Virgin, c'était des magasins décalés. Je pense que tout le monde se souvient, enfin quoique ça commence à dater, il y en a qui n'ont pas l'âge pour s'en souvenir, des campagnes de Virgin, des campagnes publicitaires, ça décoiffait. Vous vous rappelez cette personne qui pesait 140 kilos, qui faisait des campagnes de Virgin, là, qui était devenue très célèbre. Voilà, c'était une entreprise qui décoiffait, une entreprise rock'n'roll. Elle est devenue molle. On ne savait plus ce qu'elle avait à dire. On ne savait plus pourquoi on y allait et pourquoi on poussait cette porte-là plus que la porte d'à côté. Et ça, c'est un problème. Ce que vous avez à vendre, je veux dire, dans un marché où il y a de l'offre, il y a de la concurrence, il faut que les gens ils aient envie de venir chez vous. Or, dans les premiers Virgin, les jeunes et d'autres, et moi, d'accord, j'étais un peu plus jeune, mais on venait chez Virgin parce qu'il y avait des très bons disquaires, parce que moi je suis un fan de musique et j'achetais énormément de disques, je continue à en acheter énormément d'ailleurs, et je venais chez Virgin parce que j'avais les bons vendeurs. Effectivement, comme fan de jazz, j'allais aux Champs-Élysées parce qu'il était capable de m'importer n'importe quoi du Japon, et ça c'était précieux. Et il y avait des cafés, et on se posait là, il y avait des canapés, on pouvait bouquiner, il y avait une ambiance. Il n'y a plus d'ambiance dans ces magasins.
Alors moi, j'ai une question pour le syndicaliste. je voulais savoir, on imagine bien l'état d'esprit dans lequel se trouvent les salariés de Virgin Megastore, évidemment. Hein. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des propositions, est-ce que les salariés ont fait des propositions au patron, en fait, pour garder leur outil de travail ? Des propositions pour améliorer éventuellement le fonctionnement des choses, enfin, je ne sais pas...
Depuis que je suis à Virgin et que j'assiste aux réunions du comité d'entreprise, on ne peut pas dire que les vendeurs, même que ce soit en livres, en musique et autres, n'aient pas eux aussi donné leur analyse. C'est effectivement c'est en musique, effectivement, voyez avec des espoirs leurs rayons. En termes de référence, s'amenuiser d'année en année, si c'est pas de mois en mois. Et donc là-dessus, bon, les vendeurs rock, que ce soit au niveau rock, jazz et classique, enfin, c'était à chaque fois, un véritable cri du cœur, quoi, hein, voilà, en disant mais pourquoi vous n'allez pas vers les niches, nous avons des vendeurs, nous avons des clients qui aiment le jazz, nous avons des clients classiques, justement pourquoi pas justement continuer néanmoins sur le baroque ou continuer sur le clavecin et des choses comme ça ou participer voilà à des opérations pour mettre en avant tel ou tel courant de jazz pour justement essayer de faire vivre ces rayons plutôt que les amenuiser, les faire disparaître. Avec également aussi donc au niveau du côté des libraires effectivement des questionnements où effectivement bon là-dessus quand est arrivé néanmoins les premiers problèmes au niveau de la librairie, les vendeurs eux-mêmes ont dit bon bah, pourquoi pas aussi créer des rayons de niche, que ce soit au niveau pourquoi pas les littératures étrangères ou même voilà faire des rayons BD dignes de ce nom avec des références pour que une clientèle spécialisée et autres, parce qu'effectivement Virgin, quoi qu'on en dise, a toujours, historiquement, c'est construit sur une clientèle spécialisée. Qu'elle est en train de perdre et qu'elle a un peu perdu aussi, mais qui perdure aussi encore. Et en gros, les questionnements, c'était ça. Au niveau, effectivement, pour conserver l'outil de travail et autres, la plus grande question, effectivement, des personnels a été de dire, mais justement, cette clientèle spécialisée qu'on a dans les magasins, qu'est-ce que vous faites pour elle, pour la conserver et autres ? Faut-il pas, effectivement, évoluer vers des rayons peut-être plus pointus ou susciter des envies voilà à la clientèle pour découvrir telle ou telle chose, et alors que la réponse en face, bon, surtout avec l'arrivée de Butler, ça a été de dire bon, Butler, effectivement, quand ils sont arrivés dans l'entreprise en 2008, ça a été de dire bon, nous avons un problème chez Virgin, effectivement, c'est le chiffre d'affaires au mètre carré, nous voulons le développer. À l'époque, il y avait effectivement les consoles Wii et autres qui marchaient fort, eux, ils pensaient. C'était un marché porteur. Bon, le choix était de diminuer certains rayons de musique pour mettre de la Wii, sauf que malheureusement, il y a eu une forte tendance, et très vite, d'inversement de ce marché où finalement, les marchés de ces consoles avec, où on disait qu'il y avait une nouvelle clientèle, ça n'a pas perduré. Et puis, on peut dire, un manque d'imagination, de la part des actionnaires de Virgin, quelque part, c'est vrai, a tué quelque peu l'entreprise. Parce que je pense que on peut toujours penser que avec des magasins, avec d'autres concepts, si on prend, mettons, celui des Champs-Élysées, effectivement aussi, par rapport aussi, c'est l'une des différences, mettons, par rapport à la Fnac, il y a effectivement un restaurant. Ils auraient très bien pu aussi, peut-être aussi, faire évoluer ce restaurant, voir un peu ce qu'il y avait à faire là-dessus, créer des nouvelles choses, des nouveaux concepts. Or, malheureusement,
Je crois que c'est très important ce que dit Sylvain. C'est vrai que on comprend bien qu'aller vendre des consoles, certes, ça peut amener du monde quand les consoles marchent, mais quand même, des consoles, tout le monde en vend, y compris Carrefour et les autres. Donc, il faut avoir ça, mais il faut aussi avoir d'autres idées. Et c'est là où, effectivement, l'entreprise ne s'est peut-être pas battue de la même manière, de la bonne manière. Nous, on portait l'idée que, par exemple, sur les Champs-Élysées, bon sang, dans une ville, Paris, agglomération parisienne, 12 millions d'habitants, ne pas pouvoir faire une boutique hyper spécialisée de musique classique pour les amateurs. Bon, normalement, ça doit tenir la route. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait ? On va citer l'anecdote, il se reconnaîtra s'il écoute. L'ancien secrétaire du CE, vendeur de classiques, encyclopédie vivante de tout ce qui existe chez les éditeurs, on lui a proposé quoi ? Quand on lui a supprimé son rayon classique, de vendre des t-shirts.
Oh là là, scandale. C'est n'importe quoi là, effectivement.
C'est une perte de compétences.
Alors moi j'aimerais quand même avoir quelques chiffres, puisque vous êtes là, j'en profite. La perte est de 20, je crois que j'ai lu ça dans le journal, vous allez me confirmer, dans les journaux et sur internet, c'est 25 millions, c'est ça la perte, les pertes.
Oui, alors ça dépend toujours à quel moment on regarde, hein. Disons que le dernier exercice était dernier exercice normal, hein, avant le passage en redressement judiciaire, il était effectivement mauvais, très mauvais. Il y avait eu des cessions de baux de magasins qui avaient ramené un peu de l'argent, qui permettaient de limiter les pertes, on ne va pas dire d'améliorer le résultat, mais de limiter les pertes. Donc les résultats, il y avait un vrai problème de pertes très élevées. Hein, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on ne veut pas de licenciements pour améliorer les résultats, on ne veut pas de licenciements qu'on appelle boursiers, même si je trouve que le terme n'est pas bon. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait un vrai problème. Hein, ça, c'est clair. Donc, oui, c'était une perte très importante. La cessation de paiement, c'est une ardoise laissée qui est très élevée, qui pose beaucoup de problèmes au monde de l'édition, bon, pas tellement aux majors de la musique parce qu'ils peuvent absorber tellement ils sont gros, mais pour les éditeurs de livres, c'est très lourd à digérer, et pour plein de petits éditeurs, plein de petites maisons indépendantes pour qui Virgin était un gros client, ils sont pas bien non plus.
Merci, on va écouter une petite chanson, ensuite on reprend la parole, merci. Vous avez entendu donc Monsieur Tout Blanc de Léo Ferré, donc c'est un petit clin d'œil parce que c'est les 20 ans de sa mort, hein, Léo Ferré, un très très grand chanteur, anarchiste comme tout le monde sait, et également un petit clin d'œil aussi au nouveau pape, hein, qui vient d'être élu par ses pairs, mais à fréquence pareille, on s'en fout un peu. Voilà, donc c'était... On reprend donc cette émission, c'est 106.3 FM, donc fréquence pas pluriel. L'émission, c'est mode d'emploi, et nous parlons de Virgin Megastore avec donc Sylvain Alias, qui est représentant Sud Virgin, et monsieur Laurent Piollet, qui est donc expert comptable, qui est donc chargé par le CE de réfléchir sur la viabilité de cette entreprise. Alors justement, puisque j'en parle à l'instant, est-ce qu'elle est viable aujourd'hui, au moment où on parle tout de suite?
Alors, c'est poser la question difficile que tout le monde se pose. Y a-t-il un avenir possible pour un Virgin futur et sous quelle forme? Alors déjà, il faut peut-être clarifier des aspects techniques. Quand une entreprise se place en redressement judiciaire, c'est une procédure suivie par le tribunal du commerce. Bon. Elle fait, comme on dit, une déclaration de cessation de paiement. Je ne suis plus en état de payer. Elle déclare tout ce qu'elle n'a pas payé. Là, on a une idée de l'ardoise laissée, qui est plus de 100 millions à peu près. Hein. Et ça, ce n'est pas le boulet que va se traîner un repreneur. Si l'entreprise continuait par elle-même, elle pourrait devoir en assumer. Mais un repreneur, c'est pas ça. Un repreneur, il présente un projet que le tribunal apprécie, de commerce apprécie, entre le prix qu'il propose pour la reprise, sous-entendu ce prix est en partie destiné justement à payer l'ardoise, et ça c'est des personnes à part qui s'en occupent, hein, c'est pas le repreneur, et le tribunal doit apprécier aussi normalement qui offre le meilleur périmètre de reprise des emplois. Hein, c'est ça qui est les deux critères déterminants. Après, les tribunaux de commerce sont indépendants, comme toute la justice, mais ils sont plus ou moins sensibles au volet social. En ce moment, ils savent que le taux de chômage est dramatique, donc ils font un peu plus attention à ça.
C'est important parce que du coup, le plan social, le volet social n'est pas laissé stricto sensu aux repreneurs.
Non, c'est bien normé. Hein. D'abord, c'est clairement dit dans tout ce qui relève, comme on dit, des procédures collectives, hein, c'est-à-dire des sauvegardes d'entreprise, que le volet social est un critère examiné, que le comité d'entreprise est consulté sur le projet de reprise, qu'il auditionne les repreneurs. Donc tout ça est prévu dans notre droit du travail qui, malgré toutes ses lacunes, est quand même reste plutôt haut de gamme en Europe. Il faut se mobiliser pour qu'il ne régresse pas, mais pour l'instant, il est plutôt un peu haut de gamme. Donc, c'est le comité d'entreprise est vraiment associé à cela.
Moi, j'avais une question. Est-ce que actuellement les différents représentants syndicaux de Virgin ont des pistes ou des plans de reprise vis-à-vis d'investisseurs par rapport à leur boîte ou pas?
Alors, Sylvain pourra répondre après, mais bon, chacun chez soi, c'est quand même pas tout à fait au comité d'entreprise de trouver un repreneur. Hein. Sinon, il faut aussi lui donner la boîte. Il faut être logique. Hein, s'il s'agit de donner la boîte et de fonder une coopérative, là, ils sont... Bon, ça me paraît un peu difficile, vu la situation. Ça ne veut pas dire qu'il faut être buté borné et ne pas essayer de voir, faciliter, discuter. Non. Il y a une personne qui a très bien compris ça, c'est l'une des personnes qui prépare peut-être un dossier de reprise, on peut le dire, puisqu'il s'est exprimé dans la presse, c'est Patrick Zelnick. Qui a le label de musique naïve, qui a dit qu'il étudiait la reprise de l'entreprise, qu'il connaît bien, puisque c'est l'ancien président de Virgin. Qu'a-t-il fait? Au moment où il demandait « j'y vais pas », la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a demandé à voir des salariés, il a demandé à voir le secrétaire du comité d'entreprise. Avec une question... vous avez toujours la niaque, est-ce que l'état d'esprit Virgin est toujours là? Et quand il a mesuré que oui, les salariés, ils avaient toujours de la ressource, ils avaient des idées, ça l'a convaincu un peu plus dans l'idée d'y aller.
Sylvain, tu Tu veux répondre à la question aussi?
Ouais, pour ce qui est effectivement de trouver un repreneur, bah, et là-dessus, bon, comme effectivement nous les salariés, nous ne détenons pas les capitaux ni rien, donc là-dessus c'est clair. Même si effectivement on se structure plutôt autour de revendications concrètes, comme effectivement donc pas de fermeture de magasin. Hors de question de laisser des collègues sur le bord de la route s'il y a des reprises. Et puis voilà, et également aussi nous réclamons effectivement à ce que les deux principaux actionnaires, à savoir Butler Capital Partners et également Lagardère, voilà, prennent leurs responsabilités néanmoins dans cette affaire. Et si volet social il doit y avoir, bon ben à eux néanmoins de prendre la responsabilité et de les abonder. Parce que pour l'instant effectivement on a néanmoins quelque peu rencontrer des représentants de l'État qui disaient oui, effectivement, le gouvernement, enfin, la puissance publique est prête effectivement à aider en cas de coulure même et faire en sorte que voilà, il y ait un plan de sauvegarde de l'emploi correct avec des licenciements économiques dignes de, à peu près dignes de ce nom et des choses faites, mais néanmoins, nous on leur dit certes, mais néanmoins, il y a également pour nous également des actionnaires qui eux aussi ont leurs responsabilités et là-dessus on est tous c'est l'une de nos revendications aussi ne pas laisser uniquement la puissance publique payer les pots cassés effectivement les pots cassés d'actionnaires qui n'ont pas non plus souhaité véritablement investir dans l'entreprise, c'est-à-dire penser à un avenir et autres. Il faut le dire, hein, que ce soit Lagardère ou même Butler, voilà, ils étaient propriétaires de Virgin. Ils pensaient qu'effectivement, juste la marque pouvait néanmoins quelque peu tranquillement quand même apporter à elle toute seule un chiffre d'affaires. Bon, alors qu'il fallait néanmoins repenser à quelque peu les magasins et autres et investir réellement dans du concret et voilà, et avoir des objectifs clairs sur des décennies à venir et autres. Là-dessus, bon, comme il n'y en a rien été, et comme effectivement l'histoire se termine en dépôt de bilan, pour nous, il est clair que les propriétaires de Virgin ont néanmoins une responsabilité. Voilà. Donc nous, on se base plutôt sur ces axes-là. Après, effectivement, s'il y a des repreneurs, bon, ben, qu'ils se fassent connaître, et puis voilà, après, on discutera. De toute façon, la loi les y oblige. Hein, les repreneurs, enfin, le comité d'entreprise doit être au préalable consulté des différentes possibilités de reprise, si repreneur
il y a. Il y avait une idée du Qatar pendant un moment, là, c'est toujours possible, c'est toujours vrai, ça, ou c'est
ah, idée... oui, là, on parle des propriétaires de l'immeuble des Champs-Élysées.
Ah, de l'immeuble, c'est ça, oui.
Là, c'est autre chose.
Vous m'aviez dit ça,
là, c'est autre chose.
C'est autre chose, d'accord, pardon. Ah, oui. Ah, oui. Là, c'est confondu avec. Pardon.
Mais sinon, non, à ma connaissance, aucun Qatari n'a officialisé un projet de reprise de magasin.
Bien qu'il y ait des Virgines dans l'Émirat de Qatar.
Exactement.
Ah, oui. Ah bon, d'accord.
Oui, oui. Oui, oui, il y a des Virgines au Moyen-Orient, oui.
D'accord. En fait, c'est international, il y en a un peu partout, finalement.
Il y avait dans le monde entier, enfin, dans le monde entier, quasiment, ouais. En Europe, il n'y en a plus qu'en France. Il y en avait, l'un des plus gros au monde était à New York, il a fermé.
D'accord.
Voilà.
Bon. Ah bon, qu'il se débarrasse carrément de son industrie, complètement, quoi, finalement.
Mmh. Oui.
Oui, d'accord.
Moi, j'avais une dernière question à vous poser, mais vous avez en partie répondu, mais j'aimerais que vous précisiez. C'est le rôle de l'État et le positionnement de l'État par rapport à votre situation.
Les pouvoirs publics dans la période actuelle voient effectivement pour ce qui est au niveau d'un taux de chômage très important, donc déjà 1200 salariés qui arrivent à se retrouver sur le carreau. Voilà, au niveau du ministère du Travail, bon, ça, ils n'ont pas caché que ça les préoccupait quelque peu, voilà, néanmoins. Et également, bon, l'une des premières ministres à se faire connaître, ça a été Aurélie Fittipaldi, ministre de la Culture, qui, elle, néanmoins, a montré également une inquiétude sur l'offre culturelle en France et dire bon ben voilà, si une chaîne comme Virgin qui disparaissent, effectivement des points de vente de disques et de livres qui disparaissent, et même voilà également le on peut dire aussi le syndicat national de la librairie lui-même a dit que c'était également une très mauvaise nouvelle sur le marché du livre. Donc effectivement là-dessus, bon, au niveau de l'État, on réfléchit un peu. Et effectivement, bon, je pense que si effectivement il y a des offres de reprise concrètes et que on peut penser que s'il y a des apports financiers à avoir pour aider quelques reprises de magasins, voire même un maximum de reprises, je pense néanmoins voilà, on peut peut-être penser que la puissance publique agira quelque peu, voilà.
Mais je crois que ce qui est vraiment important, c'est de dire que le rôle de l'État, bon, ok, il a réagi rapidement. Il faut dire que les salariés de Virgin ont fait quand même beaucoup de bruit. Ce qui est une leçon pour tout le monde, c'est que la mobilisation et le bruit, ça produit des résultats. Ensuite, il suffisait pas de faire du bruit. Il y a quand même eu des rendez-vous avec une brochette de conseillers de différents ministères, où il y avait des demandes relativement précises. Il y a notamment une demande extrêmement argumentée qui est de dire s'il y a un projet qui a les bonnes idées mais dont le tour de table financier, comme on dit, n'est pas suffisant, on vous demande à ce que la Banque publique d'investissement conforte ce projet, c'est-à-dire que vous vous engagiez. Il paraît qu'on a créé cette structure qui est dotée de 20 milliards de fonds d'investissement. On va quand même pouvoir trouver quelques millions pour Virgin. Y a un enjeu très important, c'est effectivement la librairie indépendante est en danger. Virgin est au bord du gouffre. La FNAC, pour plein de raisons qu'on n'aura pas le temps de développer, n'ira pas mieux. Si demain on veut des villes sans librairie, sans disques, sans produits culturels, eh ben continuons comme ça, ça fera des centres-villes merveilleux.
Eh bien, merci messieurs. Cette émission se termine malheureusement. Vous aurez l'occasion de revenir quand vous voulez. Hein. Vous êtes ici chez vous, bien sûr. Merci messieurs d'avoir fait cette émission avec moi. Merci à Claude à la technique. Merci également aux auditeurs et auditrices de l'avoir entendu écouter. Je vous dis bien sûr dans 15 jours. Bisous aux filles et poignez-nous aux garçons. Ciao.
Bonsoir les filles, les garçons.